Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos.
Nicolas Barré,
Yoann Uzaï,
Mickaël Darmon.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
À l'approche de Noël, les Français veulent exercer leur droit de trêve. Pour la deuxième année consécutive, les Français vivent un décembre noir. Depuis 10 jours, le métro à Paris et les trains dans le pays sont en grève contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Ce matin dans le Parisien, Édouard Philippe met les grévistes face à leurs responsabilités, alors que la question qui se pose aujourd'hui dans beaucoup de familles, c'est tout simplement de savoir si elles seront séparées ou réunies pour les fêtes. Vous appelez vous aussi, Marine Le Pen, les grévistes à faire une pause dans la grève. Et c'est étonnant parce que depuis le début, vous soutenez explicitement ce mouvement social, ce qui a surpris même jusque dans vos propres rangs. On découvre ainsi votre version du « en même temps ». L'année dernière, vous compreniez la colère des Gilets jaunes tout en étant pour l'ordre. Aujourd'hui, vous voulez le retrait du projet, mais vous demandez, comme le gouvernement, aussi une pause pour Noël. Vous nous direz si gouverner, c'est composer, comme au fond on le voit en ce moment avec les discussions qui reprennent entre Matignon et les syndicats réformistes pour trouver l'issue au conflit. De 2019, on pourra retenir un fait vous concernant. Une quinzaine de personnalités de tous bords, et pas du vôtre, vous placent aux portes du pouvoir. Vous avez réussi à normaliser la présence du RN dans la vie politique. Pour autant, il faut encore prouver aux Français que vous êtes crédible pour 2022. C'est la raison pour laquelle votre parole est attendue. Et vous nous direz en quoi, dans l'hypothèse d'un second tour face à Emmanuel Macron, vous seriez mieux armé en 2017 qu'en 2017. Et quelle est votre vision des grands enjeux de notre époque ? Pour vous interroger dans ce grand rendez-vous, Nicolas Barré des Échos et Yoann Uzaï de CNews qui vous pose la première question.
Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Dans le Parisien de ce dimanche, Édouard Philippe affirme que les Français n'accepteraient pas que certains les privent de Noël. Est-ce que vous nous confirmez que ce matin, vous aussi, vous demandez toujours aux grévistes d'arrêter ?
Oui, je demande une trêve pour Noël, oui. Enfin, écoutez, ça me paraît quand même relativement évident. Noël est une fête extrêmement importante pour les Français, c'est une fête familiale. Et même pendant la guerre, si je puis me permettre cette référence, on faisait la trêve de Noël. Donc je pense qu'il faut que cette trêve soit respectée. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas que toutes ces discussions écartent en quelque sorte les Français de la réalité de la réforme des retraites, qui va avoir pour l'ensemble d'entre eux des conséquences qui vont être des conséquences lourdes. C'est aujourd'hui que se construit un système qui pourra avoir peut-être, si on suit le gouvernement d'Emmanuel Macron, des millions de Français dans une très grande précarité lorsqu'ils arriveront au moment de la fin de leur vie de travail. Donc c'est sur ces sujets-là, je crois, qu'il faut aborder précisément, absolument, point par point, la réforme qui est proposée par le gouvernement.
Alors, c'est exactement ce que l'on va faire effectivement ce matin avec vous. On va effectivement vous questionner sur ce sujet, sur ce conflit et sur votre propre vision de la réforme des retraites. Mais tout d'abord, pour bien comprendre, effectivement, ce soutien aux grévistes de votre part, ce soutien à un conflit social, ça semble nouveau. Ça a été remarqué comme étant pour la première fois un conflit social et soutenu par le RN, en tout cas par vous. Pourquoi ce mouvement de stratégie ?
Je crois pas. En l'occurrence, je ne pense pas que ce soit la première fois. Nous étions contre la loi El Khomri et nous l'avons dit sur tous les tons possibles et imaginables. Nous étions aux côtés des Gilets jaunes, alors qu'il s'agissait évidemment là aussi d'une révolte sociale, même si elle n'était pas
encadrée par des syndicats. En avril 2018, vous préfériez que les cheminots rendent gratuits les transports plutôt que de pénaliser les usagers. Ils étaient à ce moment-là en grève.
Incroyable, j'ai donc pas changé d'avis. J'ai donc proposé d'ailleurs dès le début de cette grève, j'ai dit que je souhaiterais que les syndicats réfléchissent peut-être à une autre forme de grève qui ne pénalise pas ceux qui déjà sont pénalisés par la réforme qui est en place et qui, pour une majorité d'entre eux d'ailleurs, participent de la contestation à cette réforme des retraites. Et j'avais suggéré la grève de la gratuité, mais il y en a sûrement d'autres. Je manque sûrement d'imagination dans ce domaine.
Nicolas Barré.
Alors, face au projet du gouvernement, et ça on va en reparler en détail, vous proposez autre chose. Dans votre programme en 2017, vous disiez retraite à 60 ans, 40 annuités de cotisation. Moi j'ai d'abord une question basique. Le système actuel étant déjà en déficit, comment est-ce que vous arrivez à financer la retraite à 60 ans ?
Alors d'abord, permettez-moi de vous rappeler tout de même que le système n'est pas dans une situation catastrophique. J'en ai soupé, je ne vous le cache pas.
Mais il est en déficit
aujourd'hui. Non, mais j'en ai soupé d'entendre dire qu'il y a un trou des retraites absolument impossibles à combler, que c'est une véritable catastrophe,
c'est le
que le système est en train de mourir. C'est un mensonge.
Vous contestez les chiffres du corps, du Conseil?
Mais pas du tout, mais au contraire. Et d'ailleurs, je vais vous relire ce que disait le corps. Comme ça, au moins, les choses seront claires et on saura de quoi on parle. Le corps dit « L'évolution de la part dans le PIB sera maîtrisée tant dans un horizon de 10 ans que de 50 ans », dit-il. Donc, on nous dit en 2025, il y aura 8 milliards de déficit. Certes, 8 milliards sur 350... Laissez-moi terminer. 8 milliards sur 350 milliards de versements des retraites. Oui. Donc, ça n'est pas non plus, si vous voulez, absolument catastrophique. Maintenant, est-ce qu'il y a des économies ou des actions à mener pour, évidemment, résoudre ce déficit? La réponse est oui. Et la première, c'est la fraude massive que subit notre système de protection sociale. Cette fraude, elle a été évaluée diversement par des rapports parlementaires, celui de Monsieur Tian, par des rapports sénatoriaux, comme le dernier qui est intervenu. On est, alors ça dépend des sources, hein, entre 10 milliards, et voire même jusqu'à 45 milliards, sans que jamais rien n'ait été fait de sérieux pour lutter contre cette fraude.
Donc, c'est ça qui
Donc
doit
aggraver
financer...
la situation des Français, avant même de résoudre le problème de la fraude, m'apparaît déjà scandaleux. Deuxièmement, il y a un phénomène très clair, très évident, monsieur, me semble-t-il, sur lequel on pourrait agir tout de suite, c'est le travail détaché. Enfin, écoutez, il y a 516 000 travailleurs détachés dans notre pays. Il faut que ceux qui nous écoutent sachent que tous ces travailleurs détachés ne cotisent pas à notre système de retraite. D'ailleurs, ne cotisent pas à notre système social de manière générale. Mais c'est autant de recettes qui sont perdues et qui sont évaluées à peu près à 4 milliards d'euros par an. C'est considérable. Et donc, je ne vous parle pas, pardon, des délocalisations. Parce que quand Whirlpool délocalise une usine en Pologne, eh bien, tous les emplois qui sont perdus en France, ce sont autant d'emplois de travailleurs qui ne cotisent pas pour la retraite de ceux qui y sont aujourd'hui. Mais fondamentalement,
donc c'est grâce à ces
monsieur...
économies, si on passe aujourd'hui le système, vous l'admettez, le système est en déficit.
Mais vous ne pouvez pas me demander de résoudre le problème du système des retraites en me coupant la parole au bout d'une minute. Je suis désolé, c'est un peu plus complexe que ça. Mais fondamentalement, permettez-moi.
Le système est en déficit de l'ordre de 5 milliards. Si vous passez à la retraite à 60 ans, ce déficit va augmenter. Donc c'est ce que vous dites qui va financer.
Alors merci, monsieur.
C'est la fraude.
Merci, monsieur, d'aborder ce sujet de la retraite à 60 ans. Bien souvent, les gens se fixent sur cette retraite à 60 ans sans peut-être s'apercevoir que le plus important dans un système de retraite, c'est le nombre d'annuités de cotisation. Or, nous souhaitons effectivement maintenir les 40 ans de cotisation pour une retraite pleine.
Au lieu de 43 aujourd'hui, je rappelle.
Oui, mais c'est fondamental en réalité, ce nombre d'années de cotisation. Parce que regardez, on discute aujourd'hui, on en reparlera, de l'âge pivot. Alors, 64 ans proposé par le gouvernement au lieu de 62 ans. Mais la réalité, c'est que Madame Touraine, il y a quelques années, a mis en place une réforme du nombre d'années de cotisation. Et on va arriver très prochainement à 43 années nécessaires de cotisation pour une retraite pleine. Alors on va faire ensemble un petit calcul. Le premier petit job, c'est en général 22 ans et demi en moyenne. Hein. Ce sont les chiffres, hein. Ce ne sont pas les miens, ce sont ceux du gouvernement. Le premier contrat de travail sérieux, c'est 25 ans et demi. 25 ans et demi plus 43, on est déjà à la capacité diminuée de prendre une retraite à 68 ou 69 ans. Et on veut faire pire que cela ? Eh bien, moi, je ne le souhaite pas.
Ça veut dire que l'âge pivot qui est proposé, c'est un gain, alors ? On partirait avant, finalement ?
Non, monsieur, c'est pas aussi simple que cela. Puisque l'âge pivot, c'est l'âge à partir duquel vous pouvez... Si vous avez le nombre d'annuités nécessaires partir à la retraite,
vous le savez bien.
Donc, je répète, notre proposition, c'est 40 annuités.
L'âge pivot, c'est l'âge à partir duquel vous n'avez plus de décote.
Il n'y avait pas de décote. Jusqu'à présent, il n'y a pas de décote. Donc, c'est une nouveauté, en quelque sorte, du gouvernement.
Ce matin, vous maintenez votre volonté de voir se retirer le projet de la réforme à points du gouvernement ?
Mais bien évidemment. Et pour une raison simple, c'est que rien n'est à retenir dans ce système de retraite proposé par le gouvernement. J'ai envie de dire, tout est à jeter.
Même les mesures pour les femmes.
Non, mais arrêtez avec les mesures pour les femmes.
Salariés du privé,
pour l'instant,
femmes.
Le système qui a été proposé était absolument épouvantable pour les femmes. Il y a eu une modification pour tenir compte des conséquences dramatiques que ça avait sur les femmes. Mais même avec la proposition qui est faite, une femme qui aujourd'hui pouvait partir avec une retraite pleine parce qu'elle avait eu deux enfants à 62 ans, ne pourra pas partir à 62 ans. Elle sera obligée d'aller jusqu'à 64 ans. Donc qu'on ne me dise pas que la réforme des retraites proposée par le gouvernement est bonne pour les femmes. Ça n'est pas vrai.
Bah, mais aujourd'hui, vous avez 80 000 femmes qui doivent attendre 67 ans pour avoir une retraite à taux plein.
Oui, 20%. Monsieur, mais il y en a 80%, c'est pas le cas, figurez-vous.
Ça sera plus le cas.
Et il y en a 80% qui partent avant 64 ans aujourd'hui. Et donc, 80% des femmes seraient donc évidemment impactées négativement par cette réforme. Mais est-ce qu'on peut revenir au fond de cette réforme ? Voilà une réforme, et je pense que même un enfant de 8 ans est capable de comprendre que ça va avoir des conséquences négatives pour tout le monde. Voilà une réforme qui, plutôt que de se fonder pour calculer la retraite sur les 25 meilleures années pour les salariés du privé, les 6 derniers mois pour les fonctionnaires, va décider de calculer la pension sur l'intégralité de la carrière. Évidemment, mécaniquement, il va y avoir une baisse des pensions, spectaculaire si je puis me permettre pour les fonctionnaires, mais importante également pour les salariés du privé, dont je rappelle qu'ils sont...
Il y a un processus de revalorisation du traitement des fonctionnaires qui pourrait justement moins pâtir de ce que vous dites. Donc c'est aussi un processus qui est en cours.
Ah oui, d'accord. Alors on va en parler de ça. Parce que là encore, entre les promesses du gouvernement et la réalité, croyez-moi qu'il y a énormément de sujets. On va prendre les enseignants, tiens. D'accord ? Bon, parce que les enseignants, ils n'ont pas de prime et par conséquent, ils ont un impact évidemment très important. Avec le système qui est proposé par le gouvernement, ils vont avoir entre 300 et 900 euros de perte par mois sur leur retraite.
C'est justement le point qui est en train de négocier.
Donc monsieur Darmanin dit, écoutez, il n'y a pas de souci.
Ça, vous savez que ces simulations aujourd'hui sont contestées. On n'a pas tous les paramètres pour faire le calcul que vous faites.
Mais sont contestées par qui ? Parce que pour l'instant, le gouvernement était dans l'incapacité de mettre sur la table ses propres simulations, ce qui est quand même un peu inquiétant quand on veut changer le système des retraites. Alors, monsieur Darmanin
Edouard
dit, je vais mettre...
que ces simulations seront faites l'année prochaine.
Voilà. Très bien,
parfait. Seront présentées l'année prochaine.
Vous admettez comme moi...
Et qu'aujourd'hui, les simulations qui sont faites ne peuvent pas être pertinentes, puisqu'on n'a pas tous les paramètres pour les faire.
D'accord, on n'a pas tous les paramètres. Mais on sait quand même que de passer d'un calcul de retraite des 6 derniers mois dans une carrière qui est ascendante, puisque la carrière des fonctionnaires est ascendante à l'intégralité de la carrière, vous entendez avec moi que quand même il va y avoir des pertes qui vont être très importantes.
Mais
monsieur Darmanin dit, je mets 400 à 500 millions sur la table pour revaloriser les salaires des enseignants. Bon. Moi, j'ai fait un petit calcul tout bête. Il y a 902 000 enseignants en France. Donc, ça fait une revalorisation en moyenne de 40 euros par mois. Est-ce que vous croyez très sincèrement que c'est de nature et que c'est au niveau pour résoudre la perte qui sera enregistrée par les enseignants, notamment, à raison du nouveau système ? Évidemment que non.
Réponse après la pause.
Le grand rendez-vous européen avec CNews et les Échos.
Nicolas Barré.
Yoann Uzaï.
Mickaël Darmon.
Et on retrouve Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, qui donc nous expose sa vision de la réforme des retraites et la raison pour laquelle elle soutient les grévistes. Mais tout d'abord, on écoute, on regarde.
C'est une réforme historique pour le pays. Historique pour la refondation d'un État-providence du XXIe siècle. Cette réforme, c'est une réforme de refondation avant toute chose. C'est une réforme de transformation de notre système et qui va donner, je dirais, sa pleine force dans le temps. Elle n'est donc pas, je dirais avant toute chose, budgétaire.
Les négociations continuent, Marine Le Pen, entre les syndicats et le gouvernement. Édouard Philippe convoque à Matignon la semaine prochaine les syndicats réformistes. Est-ce que c'est une bonne méthode ? Est-ce que finalement, c'est comme ça qu'on va réussir à sortir de ce conflit ?
C'est comme étonnant d'arriver à aligner autant de mensonges en l'espace d'un temps si court, quand même. Il faut quand même le dire. Oui, c'est une réforme, en effet, historique, puisque...
Alors allez-y, lui répondez.
Puisqu'elle effondre totalement... Notre système de protection sociale, dans un des aspects dont nous étions les plus fiers, il faut le dire, qui faisait d'ailleurs que la France était jalousée dans le monde entier, qui était notre système de retraite et qui nous a permis de faire échapper, pas tous les retraités, hélas, hein, il y a encore beaucoup à faire, mais un nombre très important de retraités, de la pauvreté, hein, puisque les taux de pauvreté des retraités en France sont moins importants que ceux de beaucoup de pays dans le monde. Donc mettre tout ça à bas, c'est en effet historique,
pourtant,
mais c'est surtout dramatique. Bon. Moi, je pense qu'il faut retirer cette réforme. On a parlé du calcul, hein, sur la carrière entière. Bon. Mais il y a une autre chose qu'un enfant de 8 ans est capable de comprendre, c'est qu'une retraite par point dépend évidemment de la valeur du point. Bon. Et que pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aucune garantie n'a été donnée par le gouvernement sur la valeur du point.
Une règle d'or a été annoncée selon laquelle il n'y aurait pas de changement, donc de la... fixé par la loi, de cette valeur du point. Ça a été annoncé.
Ah oui, mais laquelle valeur du point, M. Darmon ? La valeur d'achat du point ou la valeur de liquidation du point ? Parce qu'il y a une autre manière de faire baisser les retraites, c'est augmenter la valeur d'achat du point. Et par conséquent, vous avez moins de points et donc vous avez moins de retraites. Deuxièmement, permettez-moi de vous dire que ce qui est inscrit dans la loi, nous avons été bien placés pour le savoir, nous autres Français, peut changer. Hein, les retraites étaient indexées sur l'inflation, on voit qu'elles ne le sont plus. Et j'ai toute une série comme ça d'autres exemples.
Si ça marche pas dans la loi, vous voudriez que ce soit...
Pardon, M. Darmon, non mais excusez-moi. Quand même, une chose, on peut revenir aux propos du Premier ministre, car les propos du Premier ministre...
Et ce qu'il fait actuellement, il est en train de négocier avec
les syndicats. Les propos du Premier ministre sont plus inquiétants que cela, puisqu'il dit, on va mettre en place une règle d'or, sera inscrit dans la loi l'impossibilité de faire baisser la valeur du point. Je viens de vous dire que la loi, ça change et qu'on ne sait pas de quelle valeur du point il parle.
Mais, donc vous voudriez
mais il, a dit, la... il a dit la valeur du point acquis. Il l'a dit lui-même, la valeur du point acquis. Ça veut donc dire qu'au milieu d'une carrière, on pourrait considérer qu'on baisse la valeur du point et que donc pour le futur, tous les points qui seraient acquis auraient une valeur baissée. Mais c'est d'ailleurs, M. Darmon, l'objectif même de cette réforme. N'allons pas raconter des mensonges aux gens. L'objectif de la réforme des retraites et de la mise en œuvre d'un système par points, c'est de pouvoir faire bouger la valeur du point, de pouvoir la faire baisser, comme ça a été le cas en Suède, où, excusez-moi, mais par 3 fois en l'espace de 10 ans, la valeur du point a été baissée.
Oui, en Suède, ils ont un système automatique
de près de 10 points, ce qui est considérable.
Mais donc vous voudriez que ce soit dans la Constitution, qu'on dise dans la Constitution, le point ne baissera pas ou la valeur sera fixée, puisque vous dites que la loi, de toute façon, on peut la changer.
Écoutez, c'est une proposition qui est dérisoire. Pour une raison simple, c'est qu'encore une fois, c'est l'objectif de ce système. De la même manière que cet âge pivot dont on nous a parlé et dont on fait, en quelque sorte, le centre de la négociation.
Justement,
alors qu'en réalité, ça n'est pas l'élément, comme je vous l'ai expliqué, le plus important. Le plus important, c'est les annuités qui vont être réclamées pour avoir une retraite pleine.
On voudrait comprendre votre proposition.
Mais cet âge pivot, il va bouger aussi, monsieur. Delevoye nous l'a dit. Il a dit, mais il a vocation, cet âge pivot, à être repoussé au fur et à mesure du temps. Donc, on voit bien...
Parce que l'espérance de vie augmente.
L'espérance de vie augmente. Mais, et permettez-moi, mais notre système de retraite, il est par répartition. Donc, si on pouvait revenir tout de même aux fondamentaux.
Les fondamentaux, mais je voudrais vous entendre juste, sur la négociation qui va
juste
se,
ma phrase.
Se passer
avec la CFDT. Les fondamentaux de notre système de retraite, c'est qu'il faut des emplois et c'est qu'il faut des enfants. Ça veut dire qu'il faut mettre en place une politique de natalité, ce qui est exactement l'inverse de ce qui a été fait sous François Hollande, conseillé à l'époque par Emmanuel Macron, qui a baissé les allocations familiales, baissé le quotient familial, etc., etc. Et surtout, il faut rompre avec un modèle économique de libre-échange et de concurrence déloyale, de délocalisation à tout va, qui fait que nous ne cessons de perdre, et notamment, nous ne cessons de perdre des emplois industriels.
Sur le principe de la négociation, la question que je vous ai posée sur la négociation, qu'elle se poursuive, qu'elle continue la semaine prochaine avec ces syndicats réformistes, c'est une bonne chose pour vous ou pas ?
Mais c'est quoi un syndicat réformiste ? Excusez-moi.
La CFDT,
c'est Laurent Berger qui dit « je ne veux pas bloquer le pays,
alors,
je ne suis pas
chose.
Contre la réforme
alors, je vais vous
et
dire
contre
une
le
chose.
Projet ».
Moi, je ne suis pas dupe de la manœuvre. Voilà, je vous dis très clairement que j'ai détecté, dès que cet âge pivot a été annoncé, et qui consisterait à annoncer un âge pivot, à faire entrer la CFDT dans la grève, et puis à renoncer à l'âge pivot, parce que tout ça a été prévu à l'avance, et donc à ce que la CFDT se retire pour pouvoir effondrer la contestation contre la réforme des retraites. Je ne suis pas dupe de cela. Et c'est la raison pour laquelle je dis à votre antenne ce matin que l'âge pivot est une mauvaise manière qui est faite aux Français. Mais ça n'est pas le plus grave dans ce système de retraite proposé. Le plus grave, c'est le calcul de la retraite sur la carrière entière, c'est la valeur du point, c'est le hold-up qui est fait sur les réserves des systèmes de retraite. 160 milliards vont être volés purement et simplement par le gouvernement. Ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement graves.
Vous dites
bien
que
plus
vous
graves
faire...
pour l'avenir des Français que l'âge pivot.
Vous dites que vous voulez proposer un référendum sur ce sujet des retraites. Est-ce que vous seriez prête à faire un référendum sur les régimes spéciaux également ?
Mais monsieur, le principe du référendum, c'est que le gouvernement met sa copie, soumet sa copie au jugement des Français. Donc il effectue, encore une fois, clairement une réforme, il la soumet aux Français, les Français disent on en veut ou on n'en veut pas. Voilà. C'est simple. C'est simple et c'est au cœur même de l'article 11 de la Constitution, puisque l'article 11 de la Constitution dit que peut être soumis à un référendum des sujets qui touchent à l'organisation sociale de la nation. On est vraiment au cœur du système de retraite, si je puis me permettre. Et qu'au passage, s'il y a des conséquences sur les services publics qui y concourent, on est donc au cœur du cœur
avec le programme
de ce qui devrait faire l'objet d'un référendum.
Qu'est-ce qui a changé avec ce qui faisait le programme du Front National en 2007 proposer la fin des régimes spéciaux de retraite, la retraite à 65 ans, la création d'un régime unique. Qu'est-ce qui a changé ? Vous préférez maintenant parler à ce qu'on appelle les classes populaires ? Vous avez changé de fonction. Pourquoi ce changement d'optique de la part de votre parti ?
Mais monsieur, permettez-moi de vous dire qu'en 2016, je n'étais pas la présidente du Rassemblement national. Ça ne vous a pas échappé.
Bon, absolument.
Par conséquent, j'ai été élue à la tête du Rassemblement national avec un certain nombre de propositions, un projet complet qui est clair et qui a été choisi par les adhérents du Rassemblement national. Je pense que le candidat qui m'était opposé avait une autre vision. Donc, les adhérents du Rassemblement national ont suivi le projet que je leur propose. Moi, je leur dis que préserver notre système social est essentiel et particulièrement au moment où les Français sont volés comme au coin d'un bois, je suis désolé de le dire, compte tenu de l'ampleur de la fraude dont ils sont victimes, qu'ils sont saignés par les délocalisations, par les accords de libre-échange, par la concurrence déloyale qui fait qu'aujourd'hui les gouvernements nous expliquent que, eh bien, il faut accepter comme une fatalité le chômage de masse, c'est comme ça, il faut gérer la pénurie.
Eh
bien, je suis en désaccord avec cela.
Finance les régimes spéciaux, finance effectivement le conducteur de train de sa retraite qui part à 52 ans. Est-ce qu'il faut le faire ?
Mais monsieur, arrêtez.
Est-ce que c'est juste ? Non, mais je pose une question.
Non, mais moi, ce que je souhaiterais.
Pas d'opinion, je pose une question.
Non, mais moi, ce que je souhaiterais, parce que je ne suis pas là pour monter les Français les uns contre les autres. Le gouvernement le fait déjà assez.
Hein. Bon. Parce que vous avez changé d'avis,
dire,
donc
on va comprendre. Non, je n'ai pas changé d'avis.
Enfin, votre parti,
ce que je souhaiterais dire. C'est que
d'abord,
il y a déjà des politiques de convergence qui ont été mises en œuvre, me semble-t-il, notamment à la SNCF. Je parle sous votre contrôle. Il me semble que les employés de la SNCF nés après 1965 partiront à 61 ans et ceux nés après 1980 partiront à 62 ans. On voit bien qu'il y a déjà une convergence. Il faut continuer d'ailleurs cette convergence. Moi, ça ne me pose pas de soucis. Ce que je veux dire, c'est que modifier un système de retraite d'un régime spécial comme la SNCF, brutalement, ça n'est ni politiquement souhaitable, ni socialement souhaitable. La brutalité n'est pas souhaitable. Donc si cette convergence doit se faire sur de nombreuses années, qu'elle se fasse
donc,
sur de nombreuses années.
Mais
permettez-moi de vous dire,
c'est ça que vous voulez dire ?
Permettez-moi de vous dire que dans les régimes spéciaux, il n'y a pas que la SNCF. Et il n'y a pas que la RATP.
Non, il y en a 42 en tout.
Non,
d'accord.
Il y en a
oui, mais je voudrais que les Français en soient conscients.
Il y a la Banque de France.
Oui, et puis il y a les marins-pêcheurs.
Oui.
Et puis il y a les danseurs.
Et donc
étoiles. Mmh. Et puis il y a les pompiers,
donc
les militaires, les policiers,
les
infirmiers. C'est-à-dire tous les gens pour lesquels le gouvernement prévoit en réalité de maintenir ces régimes spéciaux. Donc on est en pleine ambiguïté quand même dans leur positionnement. Moi, on peut réfléchir à tout. Nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui dans le projet que nous sommes en train de préparer pour la prochaine présidentielle. Nous réfléchissons à proposer peut-être la mise en œuvre de conventions collectives pour ces grandes entreprises, mais qui intégreraient l'ensemble des domaines de leur travail. Leur salaire, leurs conditions de travail, leurs primes, leur temps de travail, mais aussi évidemment leur retraite. Voilà quelque chose qui se ferait dans la concertation, dans la sérénité. Et croyez-moi, la France a besoin de sérénité.
Mais dans l'idée de faire évoluer ces régimes spéciaux, si on vous comprend bien.
Oui, dans l'idée de les faire évoluer, mais pas
donc,
contre les salariés.
Les
pas brutalement, mais avec eux.
Donc vous voulez les supprimer en douceur.
Mais
vous voulez donc les supprimer, mais en douceur.
Mais
sur
le
temps.
Mais bien sûr, en douceur. Mais la convergence, encore une fois, elle est déjà Donc vous engagés. Alors, ça, donc attendez, on comprend pas. Permettez-moi de vous dire.
Vous soutenez actuellement les grévistes qui disent qu'il faut retirer le projet, mais vous voulez quand même les faire disparaître en douceur pour qu'on comprenne bien.
Excusez-moi,
parce qu'actuellement, vous soutenez des grévistes qui veulent retirer complètement le projet, donc maintenir des rémunérations spéciales.
Monsieur Darmon, est-ce que je suis obligé de vous rappeler quand même que les salariés du privé, c'est 70% des salariés? Donc vous nous parlez des régimes spéciaux qui sont une toute petite partie
soutenez,
quand même du pays.
Parce que vous soutenez un mouvement qui veut le maintien.
Mais monsieur, les salariés du privé ne veulent pas non plus de ce système de retraite, vous comprenez? Il n'y a pas que les régimes spéciaux. Arrêtez de nous expliquer que, l'économie du pays est mise en péril par les cheminots de la SNCF.
Mais qui bloque,
personne ne va
qui
vous
bloque
croire.
En ce moment qui bloque,
mais
ce sont
personne
pas les salariés
ne
du privé.
Non mais d'accord, je vous parle du système de retraite. C'est pas la retraite des cheminots de la SNCF qui met en péril l'ensemble de notre économie. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi.
Privé ne bouge pas. Pourquoi
donc,
ne n'embraye pas
maintenant, non, monsieur, encore une fois, je pense que la pénibilité doit être... on doit en tenir compte. Moi, je serai assez, dans le futur projet que je présenterai, pour que ce soit par l'intermédiaire de trimestres accordés que l'on puisse compenser soit la pénibilité, soit la dangerosité des différentes professions.
On continue à en parler après la pause. À tout de suite.
Le grand rendez-vous européen avec CNews et Les Échos.
Nicolas Barré.
Yoann Uzaï.
Mickaël Darmon.
Et on retrouve Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National. En ce moment, donc, Matignon et le gouvernement discutent avec les syndicalistes. Est-ce que vous considérez qu'avec le cas de Jean-Paul Delevoye, qui a eu donc, des oublis dans ses déclarations de patrimoine et de d'activité, qu'il est fragilisé?
Est-ce que vous vous rendez compte que s'il y a bien un sujet sur lequel, permettez-moi, il ne fallait pas qu'il y ait de conflit d'intérêts, c'est bien dans ce sujet de la réforme des retraites. Puisque une des grandes accusations faites au gouvernement, et je la partage, permettez-moi, c'est de dire qu'en réalité, on fait un pont d'or aux entreprises privées, aux grandes compagnies d'assurance, aux fonds de pension, qui vont évidemment se gaver, puisque comme il n'y aura plus de retraite complémentaire, hein, avec ce système unique à étage unique, ils vont pouvoir amasser des milliards. Bon. Or, c'est précisément sur ce sujet-là qu'on découvre qu'il y a un conflit d'intérêts dans le CV de M. Delevoye, qui a oublié de surcroît de respecter juste la Constitution. Il oublie de respecter la Constitution, il commet une infraction pénale, on apprend qu'en fait il a oublié 10
mais donc vous demandez
10
quoi
mandats,
vous demandez...
non mais pardon, pas un, vous deux, 10 mandats, et le gouvernement, le Premier ministre vient nous dire « Ah mais il est de bonne foi, circulez, il n'y a rien à voir ».
Et donc vous demandez quoi, qu'il s'en aille?
Je pense que la suspicion de conflit d'intérêts à l'égard de M. Delevoye le disqualifie totalement pour continuer à incarner discussion sur l'avenir des Français et évidemment l'avenir de leur retraite.
D'une manière générale, pour conclure ce sujet, parce qu'il y a d'autres importants sujets sur lesquels on veut vous interroger, est-ce que ce positionnement, là, dans ce conflit en 2019 sur la réforme des retraites, ne risque pas de se refermer comme un piège politique? Est-ce que les milieux économiques en 2022 ne vont pas se souvenir que vous avez soutenu, au fond, ce projet de maintien des régimes spéciaux, de maintien à côté de la CGT
Pourquoi les milieux économiques ont un intérêt à cette réforme des retraites?
Non, je vous pose la question.
C'est quoi leur intérêt exactement?
Parce que beaucoup dans votre parti disent, au fond, on ne parle pas assez au monde économique, on ne parle pas assez aux entreprises, on ne parle pas assez à tous ceux qui, au fond, veulent une mesure d'équilibre du système des retraites. Est-ce que ça risque pas d'être un problème pour vous? Question stratégique générale.
Mais enfin, écoutez, d'abord, vous êtes en train de me dire que les milieux économiques auraient donc des intérêts qui sont divergents.
Je vous pose
intérêts...
une question, je ne dis rien,
non,
je
non,
pose une question.
Que les intérêts économiques auraient, que le milieu économique aurait des intérêts divergents des intérêts supérieurs de la France. Je souhaite que non. Voilà, je souhaite que les intérêts privés dans notre pays ne passent pas au-devant de l'intérêt national. Et moi, je suis là pour défendre l'intérêt national. Deuxièmement, monsieur, si on va dans ce système de retraite, compte tenu du fait qu'entre 60 et 64 ans, il n'y a que 32% des Français qui ont un emploi, ça veut dire qu'on va se retrouver avec des générations entières à la retraite qui seront dans une pauvreté incroyable. Et qu'est-ce qu'on fera? On les laissera mourir sur le bord de la route? Non, bien entendu. On mettra en place des systèmes de solidarité qui, évidemment, pèseront eux aussi sur les impôts, sur les cotisations. Donc arrêtons encore une fois de considérer qu'il y a un intérêt pour les milieux économiques à ce qu'une partie de nos compatriotes soient les plus pauvres possibles. En tout cas, moi, je vous laisse cette déclaration. J'espère
c'est
que
une question,
non. J'espère
pas une déclaration.
J'espère que non. Et je viens leur dire qu'un bon système de retraite, un bon système social, ils y ont à y gagner. Parce qu'ils ont intérêt à avoir des salariés heureux, des salariés sereins qui peuvent se construire une famille, qui peuvent se construire un patrimoine, qui peuvent le transmettre, voilà, dans des conditions qui soient dignes d'un grand pays comme la France.
On continue à poser des questions. Nicolas Barré.
Alors Marine Le Pen, le Brexit va avoir lieu après la victoire
contrairement à tout ce que nous avaient dit les médias français, il va avoir lieu, c'est fou.
Absolument pas. Après la victoire de Boris Johnson, c'est maintenant une certitude puisqu'il va pouvoir faire passer cet accord de Brexit qui a été négocié avec l'Union européenne. Auparavant, ça n'était pas possible, il n'y avait pas de majorité au Parlement britannique pour le faire. C'est pour ça qu'il va avoir lieu. Est-ce que vous souhaitez le même genre de scénario pour la France ?
Non, je vous l'ai déjà dit. J'ai dit que je pense qu'on peut parfaitement modifier l'Europe de l'intérieur, en tout cas son fonctionnement, la manière dont elle aujourd'hui dont elle fonctionne est très néfaste, voilà, très néfaste. Et moi, je suis, vous le savez, pour que les nations européennes reprennent la main, les pays européens reprennent la main et arrêtent de confier les responsabilités à une Commission européenne qui veut nous faire entrer, je ne sais pas combien de millions d'immigrés. Vous me direz, pour ça, ils sont d'accord avec Monsieur Delevoye. Il voulait en faire entrer 50 millions, lui, pour soi-disant sauver le système de retraite. Il nous a pas expliqué comment, par ailleurs. Mais donc, je suis encore une fois pour qu'il y ait une organisation européenne, mais qu'elle fonctionne très différemment de ce qui existe aujourd'hui. Enfin, permettez-moi de vous dire que quand même, sur ces élections britanniques, je trouve que la presse devrait quand même se remettre en cause. Pardon, je le dis gentiment et poliment. Mais objectivement, quand on a vu le nombre d'analyses faites par des médias français nous expliquant que les Britanniques ne voulaient plus sortir de l'Union européenne, qu'on leur avait forcé la main, si on faisait un nouveau référendum, eh bien ce référendum serait gagné par ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne. Je veux dire, il faut arrêter, à mon avis, pour la presse française, de prendre ses espoirs pour la réalité. Il faut arrêter les analyses idéologiques.
Je ne vois pas à quoi vous faites référence.
Parce que c'est grave. C'est grave que les Français ne puissent pas avoir accès à une information factuelle, juste, et soit à chaque fois, si vous voulez, confronté à cette idéologisation des analyses de la presse française au regard d'événements extérieurs.
On a aussi beaucoup suivi la confusion politique.
Attention, parce que je veux dire, il y a tellement d'exemples qui sont en train de ressortir.
Mais simplement, on a aussi beaucoup suivi la difficulté politique des Britanniques eux-mêmes à comprendre ce qui se passait dans leur propre pays. Vous avez parlé justement de la...
Je crois qu'ils comprennent très bien que l'Union européenne souhaitait empêcher le Brexit et qu'ils le voulaient.
Vous avez parlé du fait que vous soutenez justement les mouvements nationaux, nationalistes. Ce scrutin britannique, il est marqué aussi par cela. Il va y avoir donc de la pression pour un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. On voit ce qui se passe également donc, avec d'autres revendications en Catalogne, au Pays Basque. Est-ce que vous soutenez ces mouvements? Est-ce qu'il faut effectivement pour vous qu'il y ait plus d'affirmation du côté donc, des mouvements nationalistes?
Non mais moi je soutiens la souveraineté des États et je me mêle pas de ce qui me regarde pas, vous voyez, voilà.
D'accord, mais par exemple lorsqu'il se passe, on voit ces mouvements qui sont en Catalogne, qui sont des mouvements qui justement viennent, je dirais, valider vos analyses,
qui sont des mouvements
que les peuples veulent se réveiller par rapport justement,
qui sont des mouvements de séparatisme
et
par conséquent, moi encore une fois, je respecte le droit de chaque État de régler ses difficultés internes, ça s'appelle la non-ingérence et j'y suis attaché je soutiens la souveraineté des États. Je suis convaincu qu'en ce qui concerne l'Espagne, ils arriveront à trouver les moyens pour qu'il n'y ait pas de séparation entre la Catalogne et l'Espagne.
L'Algérie, qui a un nouveau président, le taux de participation a été extrêmement faible. Il s'agit d'un ancien ministre du président Bouteflika. Il est déjà contesté. La France a jusqu'ici été très silencieuse. Est-ce que c'est une erreur?
Pourquoi ce serait une
erreur? Pourquoi ce silence de la France?
Je pense que la jeunesse algérienne aurait peut-être mérité d'avoir une élection présidentielle qui soit plus ouverte. Voilà. Le sentiment de beaucoup d'Algériens, c'est qu'en réalité, cette élection présidentielle vise à reproduire au pouvoir les mêmes groupes, les mêmes... clan, je mets ça entre guillemets parce que c'est ce qui est utilisé. Et moi, je suis frappé de voir que des décennies après l'indépendance, le peuple algérien dans la rue réclame un pays indépendant.
Est-ce que le chaos politique, économique,
un petit clin d'œil attristé entre guillemets à l'histoire, mais
est-ce que le chaos politique, économique d'ailleurs aussi dans ce pays vous inquiète?
Bien sûr, Bah, il m'inquiète bien évidemment, parce que ce qui pourrait se passer en Algérie peut avoir des conséquences évidemment immédiates sur notre pays.
Mais moi, d'immigration.
Mais moi, bien sûr, et moi encore une fois, je pense à l'intérêt supérieur de mon propre pays. Je crois que c'est mon rôle et ça devrait être le rôle de tous les responsables politiques. Or, aujourd'hui, compte tenu des conventions de 1968 qui ont été passées avec l'Algérie, s'il y avait demain une déstabilisation importante en Algérie, on pourrait voir arriver immédiatement des centaines de milliers d'Algériens qui viendraient en France. Ce qui pose un véritable problème, car la déstabilisation de l'Algérie entraînerait très probablement une déstabilisation de la France. C'est la raison pour laquelle j'ai réclamé depuis des mois déjà qu'on mette fin à ces conventions spéciales qui aujourd'hui ne se justifient plus et qui permettraient de préserver la France d'un contre-coup d'une déstabilisation en Algérie.
Nicolas Barré.
La France est engagée depuis 2013 militairement au Sahel avec la force Barkhane, hein, 4500 hommes à peu près. Est-ce qu'on peut espérer gagner une guerre là-bas qui ressemble un peu à une guerre sans fin ? Est-ce qu'il faut rester ? Est-ce qu'il faut partir ?
Bon, c'est envisagé en ce moment.
D'abord, permettez-moi de rappeler que la guerre du Mali, hein, parce qu'on l'appelle comme ça, est la conséquence directe des erreurs gigantesques qui ont été commises dans le cadre de l'intervention en Libye. Voilà, et la chute et l'effondrement de l'État libyen. Voilà, on paye ça en quelque sorte. Bon. Et c'est une erreur politique dont pour l'instant personne n'a accepté la responsabilité. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je suis frappé de voir la solitude de la France. Et je suis frappé de voir que l'Union européenne, qui se mêle de tout et de n'importe quoi, ne semble pas vouloir se mêler de la lutte contre le fondamentalisme islamiste et ne semble pas vouloir apporter une aide.
Il y a un projet de force spéciale européenne qui est en train de se mettre en place. Là, hein.
Mais il y a une aide financière aussi.
Ah oui, mais écoutez, pour l'instant, la communauté internationale s'était engagée à verser plus de 400 millions. Et à peine la moitié a été versée au moment où on se parle. Bon, donc oui, je pense que la France n'a pas seule à assumer la responsabilité de protéger l'Europe entière, puisque c'est l'Europe entière que nous protégeons. Mais c'est aussi l'Afrique, il faut quand même se souvenir de cela. Nous protégeons l'Afrique, nous protégeons l'Europe, nous protégeons bien sûr notre propre pays, mais nous sommes très seuls pour le faire. Et donc je pense que l'Union européenne d'abord devrait nous aider dans ce domaine et notamment sur le plan financier. Et puis, je le pense et je l'ai dit, je pense que l'OTAN doit profondément se modifier.
Qui n'est pas en état de mort cérébrale.
L'OTAN doit. Mais si, il est en état de mort cérébrale, mais bien
ça,
sûr.
Ça, sur ce point, vous
mais sur ce point, Monsieur Macron. Monsieur Macron m'a rejoint. Oui. Excusez-moi. Mais oui, il est en état de mort cérébrale, mais tout simplement parce qu'il n'a plus d'objectif. Or, je pense qu'il faut que maintenant, l'objectif de l'OTAN soit la lutte contre le fondamentalisme islamiste et que, de fait, et j'ai réussi à en convaincre M. Macron, je m'en réjouis, on rétablisse des relations avec la Russie qui est à la pointe de ce combat contre le fondamentalisme islamiste. Maintenant, vous voyez, je vais quand même dire que je suis d'accord avec M. Macron lorsqu'il réclame aux dirigeants africains une clarification sur le rôle de la France, car elle n'est pas intervenue contre le gré des dirigeants africains. Bon, elle est intervenue à la demande
donc
du gouvernement.
La reconvocation des présidents du Sahel tel que c'était envisagé et annulé il y a quelques jours.
Bon, ne parlons pas de convocation parce que ça a un côté condescendant qui heurte, qui blesse
et qui méprise et qui
probablement est mal ressenti. Mais disons qu'il faut mettre en place une invitation pour connaître encore une fois précisément la pensée des dirigeants africains sur la présence de la France dans la lutte contre les groupes armés terroristes.
Alors dans la série Un pas vers l'autre, on continue, on se retrouve après la pause.
Le grand rendez-vous Europe 1 avec CNews et Les Échos.
Nicolas Barré,
Yoann Uzaï,
Mickaël Darmon.
Et bien sûr Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, qui est l'invitée de notre grand rendez-vous aujourd'hui. On écoute, on regarde.
Madame Le Pen, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle dit qu'il faut manifester. Alors, écoutez, c'est un grand progrès. D'habitude, elle passe son temps à chercher pouille aux Arabes et aux musulmans. Et pour une fois, elle a compris que, quelle que soit sa religion ou sa couleur de peau, on a tous des intérêts communs et qu'on est semblables. Et qu'à partir de 60 ans et plus, tout le monde est fatigué. Donc ça vaut la peine que les gens s'arrêtent. Elle est en train de faire un progrès, en quelque sorte, en direction de l'humanisme. Je ne vais quand même pas me plaindre de ça.
Bon, vous faites un progrès vers l'humanisme. Est-ce que l'alliance des populistes sera la nouvelle donne pour 2022 ?
Je vois que M. Mélenchon est toujours dans la modération, mais en l'occurrence, je n'ai pas de leçon d'humanisme à recevoir de lui. Nous sommes évidemment aux côtés des Français qui travaillent, aux côtés des Français modestes, ils le savent, ils le savent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle une grande partie d'entre eux, une très grande partie d'entre eux, même vote pour le Rassemblement national depuis maintenant des années. Et que M. Mélenchon a perdu la confiance de ces catégories.
Vous appelez les électeurs de la France insoumise à voter pour vous ?
Maintenant, si vous voulez, on est d'accord sur le rejet de la, du système de réforme des retraites, and so what, si je puis me permettre pour une fois de parler anglais. Et alors ? Et alors ? Oui, d'accord, on peut être parfaitement d'accord sur ce sujet-là, et moi je me réjouis, plus il y a de personnes qui sont opposées à cette réforme des retraites, et plus il y a de chances pour que celle-ci soit retirée, donc je m'en réjouis.
Alors vous êtes bien sûr en pleine campagne pour les élections municipales et il y a une ville sur laquelle vous misez beaucoup d'espoir, c'est celle de Perpignan. Or Christian Jacob, qui est le président des Républicains, il affirme que Perpignan va rester aux mains des Républicains. Est-ce que le fait que Louis Alliot refuse l'étiquette du Rassemblement national, c'est quelque chose qui peut lui coûter la victoire selon vous? C'est une bonne ou une mauvaise stratégie de ne pas prendre officiellement cette étiquette du Rassemblement national?
Bon, d'abord, permettez-moi de vous dire que les prédictions de M. Jacob ne font pas la réalité électorale dans notre pays, Dieu merci par ailleurs. Mais M. Alliot ne refuse pas l'étiquette du Rassemblement national. Le fait qu'il présente une liste sans étiquette, en accord absolument avec le Rassemblement national et avec sa direction, c'est tout simplement parce qu'il est tellement connu qu'il n'a pas besoin de cette étiquette Rassemblement national. L'étiquette, elle est là pour
il
que les électeurs...
Il a considéré que ça serait plutôt un handicap.
Non, je ne crois pas. Je crois qu'il n'en a pas besoin. Et que comme il accueille sur sa liste beaucoup de gens qui ne sont pas du Rassemblement national, eh bien, il a choisi de faire une grande liste d'alliances, de rassemblements. Et c'est avec, entre guillemets, notre bénédiction qu'il le fait. Moi, je suis convaincu de ses chances de victoire. Mais il y aura évidemment beaucoup d'autres villes en France dans lesquelles nous avons des possibilité de victoire, même si tous ceux qui tentent de faire des projections pour les municipales se casseront les dents dans leurs projections, donc autant ne pas en faire.
Parce que parmi les projections, on dit qu'il y aurait une forte poussée du RN. Alors,
combien de villes vont se casser
les dents ? Je le souhaite, je travaille pour ça tous les jours. Nous travaillons avec les militants du Rassemblement national pour ça tous les jours.
Quand on regarde vos stratégies, on voit qu'avec ce mouvement de la droite populaire importé par Thierry Mariani, il y a une sorte de plateforme nouvelle qui est en train de se mettre en place pour pouvoir au fond faire la fusion entre des élus venant de LR et des élus du Rassemblement National. Est-ce que c'est une nouvelle manière pour vous, peut-être, de prendre un peu de recul par rapport à votre parti, puisqu'au fond, les partis, c'est plus à la mode aujourd'hui?
Donc, le Rassemblement National, aujourd'hui, il rassemble des gens qui viennent de la droite, qui ont été déçus par LR, mais qui viennent aussi de la gauche. Hein. Monsieur Cotarac vient de la France Insoumise, il sera candidat à la métropole de Lyon. Par conséquent, ça vient de partout. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le nouveau clivage se met en place entre les mondialistes et les nationaux, et nous sommes le pôle de rassemblement à vocation majoritaire de ceux qui défendent aujourd'hui et demain la nation. Donc je continue à jouer le rôle qui est le mien de présidente du Rassemblement national, mais je suis obligée, parce que j'en suis la présidente, d'avoir évidemment un horizon qui englobe en même temps les municipales, les départementales et les régionales qui arriveront l'année prochaine, et bien entendu la future présidentielle. Pourquoi l'objectif c'est d'arriver au pouvoir, monsieur Darmon, tout simplement.
Justement, on entend aussi beaucoup parmi vos rangs que, quelque part, vous les considérez comme étant pas assez prêts au Rassemblement national, pas assez, au fond, déjà outillés pour pouvoir préparer le nouveau débat de 2022. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait justement une évolution aussi de ce point de vue-là?
Non, mais comme présidente, là encore, je suis dans mon rôle. Je suis là pour inciter, pour pousser l'ensemble de nos cadres, de nos militants à être meilleurs de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Et si je ne faisais pas ça, je manquerais objectivement à mes responsabilités.
Qu'est-ce qui fait que vous pensez que vous serez plus prête en 2022 pour un éventuel nouveau face-à-face avec Emmanuel Macron
D'abord parce que je pense que les choses s'accélèrent. Je pense que beaucoup de Français ont découvert la véritable nature d'Emmanuel Macron. En tout cas, la nature pas de l'homme, mais la nature de son projet. Et que demain, les choses s'aggravent si vite en matière d'insécurité, en matière d'immigration, en matière de délocalisation, de concurrence déloyale, qu'on sera un peu à la croisée des chemins. Voilà. Nicolas Barré. Et chacun en a conscience. Cette lucidité, on la ressent dans tous les conversations que nous avons avec les Français, y compris d'ailleurs M. Darmon dans les milieux économiques, qui parfois ont cru qu'ils allaient être les gagnants de la mondialisation et qui s'aperçoivent qu'en réalité, ils seront aussi les perdants de la mondialisation et qui en appellent à un État stratège du type de celui que je veux à nouveau mettre en œuvre.
Nicolas Barré, pour conclure.
L'hebdomadaire Le Point raconte cette semaine que Patrick Buisson vous a posé la question suivante. Est-il inimaginable que vous vous effaciez devant un candidat mieux placé que vous à la présidentielle de 2022? Alors, je vous pose la question, est-ce que c'est inimaginable?
Non, mais M. Buisson, d'abord, ne m'a pas posé cette question. Mais alors, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, et chacun le dit d'ailleurs en réalité, je suis la mieux placée pour pouvoir rassembler au-delà de mon propre mouvement et être la candidate de rassemblement de l'ensemble de ceux qui souhaitent que la France prenne une autre orientation qu'une orientation mondialiste, ultralibérale, libre-échange, Union européenne, immigration de masse, insécurité et laxisme, vente de nos avoirs aux étrangers. Vous avez vu, vous êtes bien placé, hein. Vous avez vu que vous avez vu quand même qu'on a laissé. Vous avez vu qu'on a laissé Latécoère, qui est un des grands sous-traitants en matière aéronautique français, être racheté par un fonds de pension américain. Monsieur Le Maire n'a pas levé le petit doigt, alors que lui-même avait fait un décret pour intégrer l'aéronautique dans la préservation de ces entreprises hautement stratégiques pour notre pays. Eh bien, tout cela, avec moi, ça changera.
Eh bien, ce sera donc effectivement des débats qui seront abordés prochainement, bien évidemment, pour 2022. C'était le rendez-vous de Marine Le Pen. À dimanche prochain.